RCF.
Francine Leca, c'est un grand honneur vraiment de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission Visage, car votre parcours de vie et votre engagement m'ont beaucoup impressionné. Vous êtes née à Neuilly en 1938 et vous êtes la première femme française à être devenue chirurgien cardiaque. Pendant plus de 40 ans, vous avez opéré le cœur de milliers d'enfants pour sauver ou améliorer leur vie. Des opérations que vous avez réalisées à l'hôpital Laennec, puis à l'hôpital Necker à Paris, où vous avez été chef de service de chirurgie cardiaque. Et en 1996, vous avez fondé l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui a pour vocation d'opérer du cœur des enfants venus de pays pauvres et qui n'auraient guère de chance de survivre dans leur pays. Dans le livre que vous avez écrit avec Brigitte Petitgand aux éditions Kéro, « Ayez du cœur pour qu'ils en aient un », vous commencez votre récit par un coup de foudre. Nous sommes en janvier 1968, vous avez 29 ans, et vous commencez votre internat de médecine. Et vous racontez ceci, le coup de foudre, le vrai, celui qui vous cloue sur place, qui vous coupe le souffle, qui vous bouleverse totalement, c'est pour la chirurgie cardiaque que je l'ai ressenti. Vous vous souvenez encore précisément, Francine Leca, de ce moment-là?
Oui, ça je m'en souviens très bien. J'avais choisi, donc c'était au cours de mon internat, j'avais choisi de faire un stage. Au début, on choisit des stages de 6 mois. Et je l'avais choisi en chirurgie cardiaque pour 2 raisons. La première, je me disais, je pense que quand on a vu le cœur, c'est pas mal déjà pour débuter. Je voulais au départ faire de la chirurgie de la main, la chirurgie réparatrice de la main.
Et vous êtes passé de la main au cœur?
Je m'étais inscrite, c'était dans ma tête. Je m'étais dit, je vais faire la chirurgie réparatrice de la main. J'avais retenu ma dernière année d'internat à l'époque chez Dufour-Mantel, qui était un des pontes de la chirurgie de la main. Et je prends la chirurgie cardiaque comme premier stage, parce que je me dis, c'est bien de voir un petit peu le cœur, source de tellement de choses, de commencer par ça. Et puis ensuite, parce que j'avais un conférencier d'internat à l'époque, Jean-Yves Neveu, qui me donnait donc ce qu'on appelait des sous-cols d'internat à l'époque, qui est un homme brillant, qui m'intéressait beaucoup. Et il était à l'époque chef de clinique dans ce service, et je dis, je vais prendre ce service.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, au moment de l'opération?
Je suis rentrée en salle d'opération, et à ce moment-là, ça a été vraiment le coup de foudre. Oui, enfin, vous savez, les gens qui écrivent aiment bien les phrases toujours un petit peu pompeuses.
Les formes littéraires.
Voilà, mais ça n'en était pas loin quand même. Pourquoi? Parce que si demain vous rentrez dans une salle d'opération et que vous voyez une opération de chirurgie cardiaque, vous allez quand même être cloué. D'abord, à l'époque, la table d'opération était déjà sur une estrade, vous voyez? Pourquoi une estrade? Parce que ça permettait le meilleur écoulement du sang veineux dans la machine de circulation extracorporelle. Donc déjà, vous voyez le côté impressionnant, l'estrade. Ensuite, c'est une chirurgie où il y a un minimum de 4 personnes autour de l'opéré. Je ne parle pas des anesthésistes, je ne parle pas des panseuses, ni de la personne qui fait marcher la machine de circulation extracorporelle, mais chirurgicalement, il y a déjà 4 personnes. Donc, vous voyez, vous rentrez dans une salle d'opération où il y a 10 personnes.
Donc, c'est une équipe, vraiment.
C'est une équipe. Chacun, évidemment, a un rôle bien précis. Ça fonctionne, c'est bien huilé, heureusement, vous me direz. Et donc, on s'approche, on n'ose pas bouger, on fait très attention. On vous dit, approche-toi, viens voir. On se met derrière, souvent à la tête du malade, au niveau de l'anesthésiste. Et là, j'ai vu quelque chose de fascinant. C'est qu'on arrête le cœur, on branche évidemment la machine qui va le remplacer, qui s'appelle la circulation extracorporelle, le cœur-poumon artificiel, si vous préférez. On arrête le cœur, on ouvre le cœur, on le vide de son sang, on le répare. J'ai souvent dit, c'est de la plomberie et de la couture,
ça, c'est exactement
ça. Mais oui, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut remettre les tuyaux dans le bon sens quand ils sont mal faits, ou les élargir s'ils sont trop étroits. Ça, c'est véritablement de la plomberie et de la couture, parce que avec une aiguille et du fil, on va à l'intérieur de ce cœur, coudre des pièces pour fermer un trou qui ne devrait pas exister, pour agrandir une artère qui est trop petite. Et alors j'ai vu ça, c'était passionnant. Et à la fin, on referme tout soigneusement, évidemment. On purge l'air, parce qu'il ne faut pas, quand il va se remettre à battre, qu'il envoie de l'air dans le cerveau, évidemment. Et j'ai vu le cœur qui s'est remis spontanément à battre. J'ai dit, c'est un miracle, c'est une chirurgie de réparation.
Et c'est,
pas
ce, que je veux faire. Et c'est ce que je veux faire. Vous avez dit là, vous avez laissé tomber la main.
Ah, et c'est
chose.
Ce que je veux faire. Ça a été une décision, mais de ce jour-là.
Alors Francine Leca, on va remonter quand même un petit peu dans le temps, parce que j'ai envie que les auditeurs fassent connaissance avec la femme que vous êtes et puis la personnalité que vous avez, parce que vous avez été la première française chirurgienne cardiaque en 1971. Mais avant cela, vous étiez une petite fille. Pas facile, j'ai l'impression.
Comment
ça? Allez, on va le dire aux auditeurs.
Je vais relire ce livre, il a été très mal écrit. Je vais dire ça à Brigitte.
Vous aviez quand même un sacré caractère, non?
Quand
vous
étiez. On va le dire
aux auditeurs, il y a votre petite fille
qui
vous accompagne.
Alors, ma petite fille est là. Si je dis que j'étais pas une très bonne élève, je vais perdre tout mon crédit, vous imaginez.
Non, mais c'est vrai, vous étiez pas une élève brillante en tous les cas. Vous avez été renvoyée quand même de deux établissements.
Même Macron m'a dit ça un jour, tu te souviens? Colomba, même Macron m'a dit ça.
Renvoyer de deux établissements de
renvoyé,
bonne famille.
Renvoyer, c'était des écoles. Je suis dans un endroit religieux ici. C'était des écoles religieuses, des prestigieuses. J'étais peut-être un petit peu indisciplinée, mais enfin, vous savez, rien de très méchant.
Mais quand même. Donc,
quand même.
Il y a eu un homme qui a énormément compté, bien sûr. Un père compte toujours beaucoup. Mais j'ai l'impression que votre père a joué un rôle important à ce moment-là où vous étiez un peu turbulente. C'est vrai qu'il vous appelait B.A.R.
Oui. Bon à rien. Oui, bon à rien. Il a sévi un grand coup. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et il ne m'a pas grondé ni tout ça. Il m'a dit, écoute, maintenant tu es une grande fille, je vais te mettre un marché en main. Si tu veux ne rien faire, bah tu fais rien. Hein. Mais si tu envisages de faire quelque chose, il va falloir s'en occuper sérieusement. On va établir un contrat entre nous. Tu me dis ce que tu veux. Mais une fois que tu me l'as dit, tu suis ce que tu m'as dit.
Et tu fais ce que tu as dit.
Et tu fais ce que tu as dit. Et ça, c'est une phrase qui m'a marquée à vie. Parce que il le disait d'une autre façon. Il disait, une parole donnée, c'est comme une pierre jetée, ça ne revient jamais en arrière. Et quand on dit quelque chose, on le fait.
Ça vous est marqué pour la vie.
J'ai dit, bon, ok, allez, je vais travailler.
À partir du moment où vous avez décidé d'être médecin, vous êtes mis à vraiment travailler?
Absolument, oui. J'ai décidé très vite d'être médecin. Et pour être médecin, il ne faut pas être très intelligent, mais il faut beaucoup travailler. Je dis toujours, il faut remplir le disque dur.
On dit c'est-à-dire que c'est beaucoup de par cœur.
Oui, beaucoup. Je n'avais pas beaucoup de mémoire, donc j'étais obligée de... Oui, j'ai beaucoup travaillé, incontestablement.
Visage, Thierry Lyonnais.
Francine Leca, qu'est-ce qui vous a fait non seulement devenir médecin, mais de choisir de devenir chirurgien? Parce que ce n'était pas évident, ça, dans les années 60,
mais
pour une femme.
Non, ce n'est pas du tout dans ma famille. J'ai aucun médecin ni chirurgien dans ma famille. J'aime bien la chirurgie. C'est de la médecine, d'abord. Il ne faut pas en faire une sous-spécialité. Comme je dis toujours, il faut d'abord être médecin, c'est-à-dire savoir s'occuper des malades. C'est ça, être médecin. Et puis ensuite, il y a plusieurs façons de les soigner, soit avec des médicaments, soit le radiologue en faisant des radios, soit le chirurgien, parce que je suis assez manuel, en allant réparer quelque chose.
Mais c'est ça, il faut être très manuel quand même. Vous parliez des mains, vous aviez envie de réparer les mains.
Oui, il vaut mieux pas être trop maladroit quand même.
Il vaut mieux être même très adroit, non? Parce que quand on opère à cœur ouvert un cœur d'enfant, comme vous l'avez fait plus de 6000 fois, il faut quand même avoir une main... très précise.
Oui, mais bon, il y a énormément de gens qui ont de l'adresse manuelle et qui pourraient d'ailleurs faire de la chirurgie.
Et alors, on dit parfois que la chirurgie, c'est le soin des gens pressés. Il faut aller vite, on veut voir des résultats. C'est une expression qui vous semble juste ou pas vraiment?
Non, ça ne veut rien dire, ça, des gens pressés. Il faut au contraire prendre bien son temps, être bien soigneux. Vous savez, vous l'avez dit vous-même, quand vous opérez un cœur qui est gros... comme une grosse noix chez un nouveau-né. Le problème n'est pas d'être pressé. Par contre, je vois ce que vous voulez dire. Il ne faut pas perdre de temps en chirurgie cardiaque. Parce que la plupart des interventions se font ce qu'on appelle sous circulation extracorporelle, c'est-à-dire pour arrêter le cœur, il faut le remplacer par la machine, peut-être qu'on en reparlera si ça vous intéresse. Donc ça ne peut pas durer trop longtemps. Autrement dit, il ne faut pas être pressé, mais il ne faut pas perdre une minute, vous voyez la nuance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous ne pouvez pas tout d'un coup vous étirer en disant, tiens, je vais... L'orthopédiste, il peut à la limite dire, je vais fumer une cigarette.
Là, ce n'est pas possible.
Ah non, il faut absolument être très concentré. Il faut être très concentré, de façon à ce que l'intervention, quand vous la commencez, elle se déroule en continu, sans perdre de temps. Mais ça ne veut pas dire être pressé. Mais... Il y a une grosse nuance.
Tout à fait. Et alors, ça demande une précision, j'imagine, absolument incroyable.
Oui, bien sûr. Enfin, oui. Enfin, horloger, il faut être très précis. Les gens qui font de la dentelle sont très précis. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de métiers manuels qui sont d'une grande adresse et d'une grande précision. Tant qu'à être chirurgien, il faut mieux effectivement pas trembler et savoir.
Et pourquoi les enfants, Francine Lecas, pourquoi choisir d'opérer le cœur des enfants et pas les adultes? Puisque vous êtes devenue la spécialiste.
Mais j'ai opéré aussi des adultes, ce qui est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que les malformations que l'on opère chez l'enfant, bah justement, je viens de dire le mot, ce sont des malformations de naissance. C'est-à-dire, c'est pas l'âge. Chez nous, les adultes, le cœur s'abîme parce qu'on prend de l'âge, parce que voilà. Les organes s'abîment. Chez l'enfant, il naît avec une malformation. C'est ce qu'on appelle les malformations congénitales. Et c'est très passionnant parce que c'est véritablement une chirurgie de réparation. On va réparer ce que la nature a mal formé.
Vous allez améliorer ce que la nature a mal fait quelque part.
Améliorer
sur le cœur
à minima,
ouais.
Réparer le plus possible. Les malformations cardiaques, c'est trois types de malformations qui peuvent s'associer de façon différente. C'est des trous à l'intérieur du cœur qui ne devraient pas exister, donc des communications anormales. C'est des artères, vous savez qu'il y a des veines qui arrivent, des artères qui partent du cœur. Ce sont des tuyaux qui arrivent à la pompe, qui peuvent être rétrécis ou fuyants. Et puis, c'est parfois ces vaisseaux qui sont, comme on dit, mal posés. C'est-à-dire la nature, pour des raisons embryologiques trop longues à détailler, puis d'ailleurs... Je ne suis pas très compétente en embryologie, sont mal placés. Donc, il va falloir les replacer au bon endroit. Donc, c'est cette association de ces trois lésions qui font la base de toutes les malformations cardiaques congénitales, qui sont très nombreuses. Et le chirurgien doit en faire le diagnostic avant, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut d'abord être un médecin. Il faut savoir examiner son malade, il faut savoir faire le diagnostic. Ensuite, on répare. Et après avoir réparé, on suit pour voir les résultats.
Alors Francine Lecas, vous avez déclaré un jour, la chirurgie, c'est de l'angoisse et du plaisir. Alors dites-moi d'abord, en quoi ça a été un vrai plaisir pour vous?
Je ne sais pas si j'ai jamais dit ça, mais enfin, peu importe.
On vous le fait dire en tous les cas.
On le fait dire,
mais pourquoi
pas.
Ça vous acceptez, ça?
Oui, je l'accepte tout à fait.
C'est de l'angoisse et du plaisir.
De l'angoisse, vous savez, quand vous rentrez en salle d'opération, que vous avez la vie d'un enfant véritablement entre les mains, là c'est le cas de le dire, il ne faut pas faire de faute. Pas faire de faute. J'écoutais ce matin une skieuse, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'au moment du départ, angoisse, c'est peut-être pas le mot, mais
il y a un trac,
il y a une concentration, il y a quelque chose. Et puis une fois qu'elle est lancée et qu'elle fait sa descente, c'est plus le plaisir qu'autre chose.
D'accord. Et vous, ça a été pareil? Vous aviez le trac avant d'entrer dans la salle d'opération?
Ça dépend. Dépendait des interventions. Il y a des interventions plus ou moins qu'on a fait un plus grand nombre de fois, qui sont plus rodées, qui sont moins difficiles. À ce moment-là, non, il n'y a pas de trac. Quand c'est quelque chose de plus difficile, oui. Je ne sais pas si le mot trac convient. C'est très difficile de vous répondre. C'est ni de l'angoisse ni du trac. C'est, une petite appréhension quand même. On sent la nécessité, encore une fois, j'emploie ce mot parce que je le considère comme très important, qui est le problème de la concentration. Il faut être vraiment concentré sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire. C'est souvent au moment où on se lave les mains. Parce qu'avant d'opérer, bien sûr, on se lave longuement les mains, comme vous vous en doutez. Et à ce moment-là, ça, on est devant son lavabo avec sa brosse. Et là, la concentration débute. Pour moi, vous savez, chaque chirurgien a sa façon de voir. Et on pense, on a déjà pensé bien à l'avance, mais on repense à ce qu'on va faire. On est effectivement concentré. Voilà, je préfère ce mot.
Et quand l'opération commence, alors là, on est vraiment totalement concentré.
Ah,
et
oui,
il n'y a
oui.
plus d'inquiétude, même si vous savez que, par exemple, le cas est difficile.
Oui, si, il y a toujours d'inquiétude. Puis il peut y avoir des petits incidents de parcours, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ou quelque chose qui se passe pas comme on voulait. C'est pas un long fleuve tranquille, la chirurgie, c'est quand même délicat. Et à ce moment-là, ben, il faut justement absolument rester calme, absolument. Puis il faut pas oublier aussi que du calme du chirurgien va dépendre le calme de toute l'équipe. Si le chirurgien commence à s'angoisser ouvertement et à s'agiter, c'est-à-dire on a des angoisses, on a les tripes qui se serrent, comme on dit vulgairement, mais faut pas que ça apparaisse.
Et ça?
Vous pouvez pas dire à tout le monde, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vous le capitaine. Hein. C'est, imaginez dans une tempête, le capitaine perd les pédales, ça va pas du tout.
Et alors, opérer un cœur, comme vous l'avez fait des milliers de fois, un cœur ouvert, c'est autre chose, me semble-t-il, même si je n'y connais rien, que d'opérer un genou ou d'opérer un pied. Vous savez que s'il y a la moindre erreur, la vie du patient est en jeu.
Absolument.
Est-ce que là, il y a une pression encore plus forte pour le chirurgien cardiaque que pour le chirurgien de la main ou du pied ?
Je ne pense pas, parce que j'ai quand même fait d'autres chirurgies avant de... Au cours de mon internat, j'ai fait d'autres chirurgies. Vous savez, vous parlez de réparer une main ou un pied. Si le malade sort avec une main qui fonctionne plus, s'il sort estropié, c'est une responsabilité... c'est pas la vie, bien sûr.
Non, c'est pas sa vie qui est en jeu.
Oui, mais enfin bon... Non, ce qu'il faut, c'est quoi qu'on ait choisi comme discipline, la faire le mieux possible.
Ce qui m'intrigue quand même dans votre métier qui est particulier, c'est que à la moindre erreur, ça peut être la mort de la personne.
Oui.
Donc vous avez quelque part, excusez-moi, je ne vous prends pas pour un dieu ou une déesse, mais vous avez une sorte de pouvoir de vie et de mort en pratiquant bien votre métier de chirurgien cardiaque.
Oui, disons que c'est immédiat. Comme je dis souvent, la chirurgie cardiaque, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire le résultat, on l'a tout de suite. C'est sûr que vous prenez l'exemple de l'orthopédiste, lui, s'il voit le malade rentrer en boitant dans son cabinet 3 mois plus tard, il n'est pas content non plus, mais c'est retardé. C'est vrai que la chirurgie cardiaque, c'est immédiat. Si pour une raison ou une autre, l'intervention a mal tourné, ou que le cœur est trop fatigué, ou quoi, ou qu'est-ce, s'il ne redémarre pas... Là, effectivement, c'est quitte ou double, hein, ça c'est vrai.
Et comment vous avez réagi, Francine Leca, la première fois où vous avez assisté à une opération qui a mal tourné et où la personne est décédée ?
Oh ben c'est terrible. C'est terrible, c'est d'autant que, en général, en particulier chez les enfants, il y a les parents qui attendent à la sortie du bloc. Il faut les affronter. Enfin, le terme affronter n'est pas bon d'ailleurs. Il faut les rencontrer, il faut leur expliquer, leur parler. Il ne faut pas fuir, pas passer par une porte de derrière en disant ben, « je les verrai demain ». Il faut y aller tout de suite.
Pas envoyer quelqu'un d'autre.
Ah non, il ne faut pas envoyer quelqu'un d'autre.
Donc ça, c'est vous qui annonciez aux parents
toujours,
la mort de l'enfant.
Ça, c'est la moindre des honnêtetés. Hein. Ça, pour moi, ce n'est pas pensable que ça se passe autrement. C'est des moments très difficiles. Bon, vous savez, combien de fois j'ai pleuré quand j'ai eu des pleurés.
Devant les parents ou pas devant les parents, ou avec les parents?
Je ne me rappelle plus, mais non, on essaye de... Non, pas devant les parents. Les parents, je ne dirais pas on prend leur chagrin, mais c'est leur chagrin qui compte. Non, c'est après, quand on est seul. Quand on pleure souvent, c'est quand on est seul.
Oui, j'ai vu beaucoup de documentaires sur vous avant de vous rencontrer. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est votre attention aux autres, la manière dont vous parlez aux personnes, notamment dans l'association dont vous vous occupez, hein, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je vous ai trouvé très en empathie avec les gens, beaucoup dans la conversation,
savez,
beaucoup dans
métier,
le toucher.
On ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens. Moi, j'aime profondément les gens.
Mais il y a des grands pontes qui sont froids parfois, des médecins qui sont froids.
Oui, peut-être froids extérieurement, mais je suis sûr qu'ils aiment, les gens. On aime la personne qui se confie à vous. On l'aime. Mais l'extérieur peut être plus ou moins froid, ou plus ou moins empathique, ou plus ou moins aimable. Mais comme je dis toujours, alors les gens qui me disent « oui, j'ai mon médecin, ou j'ai rencontré quelqu'un, et, quand même, il n'était pas charmant », je dis « bah oui, mais dans tous les métiers, il y a des gens plus ou moins charmants, hein ». Ouais. La boulangère, elle peut vous faire un gentil sourire en vous donnant votre croissant, ou elle peut vous dire...
Mais est-ce que c'est pas un des rôles du médecin d'avoir beaucoup d'empathie, de compassion?
Si, idéalement, il faudrait que tous les médecins aient cette empathie avec leurs malades. Ce serait idéal, bien sûr.
Mais on n'enseigne pas ça en faisant des études de journalisme.
C'est quand même difficile, quand même difficile d'enseigner l'empathie, ou alors ce serait une empathie artificielle. Non, mais globalement, quand même, les médecins, les infirmières, les soignants, j'aime bien ce terme de soignant, tous les gens qui vous soignent, ça va du dentiste à l'infirmière en passant par l'aide-soignante, c'est-à-dire les gens qui, dont le métier est de veiller sur votre santé, sur votre bien-être, votre santé. Allez, on va dire 99% ont de l'empathie et de l'amour pour vous. Puis il y a quelques, comme partout,
Francine Leca, puisqu'on parle de médecine, je vais vous demander, je vais vous faire faire un petit exercice, je ne vous ai pas dit de vous préparer, mais est-ce que vous voulez bien me lire le serment d'Hippocrate?
Ah, c'est un très beau serment.
J'aimerais bien vous entendre le lire. Allez-y.
Ah oui, je le lis avec plaisir parce que c'est magnifique, tout y est. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant avec mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y manque. C'est magnifique.
Il est magnifique ce texte.
Tout y est.
Comment il résonne encore en vous? Ça fait plus de 50 ans que vous l'avez prononcé, ce serment d'Hippocrate. Oui. Comment il résonne en vous?
Je vais vous dire, j'ai presque, je ne vais pas dire les larmes aux yeux, parce que je vais dire que je pleure tout le temps, mais j'ai l'émotion. Bien sûr que j'ai l'émotion.
Quand vous relisez ce texte,
j'ai l'émotion. Là, j'ai l'émotion. Ah, ouais. Il est magnifique, ce texte. Tout y est.
Et alors, il est vraiment encore mise en pratique, vous trouvez, ici, parce qu'on parle beaucoup, vous le savez, de la crise des hôpitaux, vous qui avez toujours travaillé dans les hôpitaux publics. Actuellement, on parle beaucoup de la crise des hôpitaux, on parle de plus en plus de médecins qui choisissent de travailler dans des branches qui leur apportent beaucoup d'argent plutôt que dans des branches moins rémunératrices. Comment vous voyez la médecine d'aujourd'hui en France?
Attendez, votre question, c'est pas une heure d'interview, c'est des heures d'interview qu'il nous faudrait. Parce qu'il faut scinder les problèmes. D'abord, vous parlez des médecins avec, je sais pas si j'ai bien compris ce que vous sous-entendez, c'est que les médecins aujourd'hui ne seraient plus, comme on vient de le dire dans ce segment,
je ne sais pas, je vous pose la question s'ils le sont, parce que j'ai l'impression, pour avoir rencontré des médecins de campagne, par exemple, qu'ils ne trouvent personne pour prendre la relève.
Mais attendez, alors pourquoi il y a un manque de médecins, ça on pourra en reparler dans un second temps. Mais est-ce qu'un médecin aujourd'hui, encore une fois je parle pour la grande majorité, il y a toujours des exceptions, est-ce que les médecins aujourd'hui sont conscients de ce serment et suivent ce serment? Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai toujours dit, médecin-malade, c'est un couple. C'est un couple. Mmh. Et dans un couple, chacun apporte quelque chose. Et si ça ne va pas, quand un couple se sépare, parce qu'il y a un divorce ou quoi ou qu'est-ce, c'est rare qu'il y en ait un tout blanc et l'autre tout noir. C'est le plus souvent ce qu'on appelle les torts partagés ou les responsabilités partagées. Il faut bien dire aussi aujourd'hui que l'exigence, entre guillemets, vous allez dire c'est peut-être normal, mais enfin c'est une analyse, sans jugement, c'est une analyse. L'exigence des malades est très grande, très grande.
Surtout en France, hein. Vous dites qu'on est trop gâté.
J'aimerais entendre « Ah, mon médecin, il m'a bien soigné. Ah, comme je remercie d'avoir la chance de vivre en France et d'avoir les soins gratuits grâce à notre sécurité sociale. Ah, je n'entends que des « Oui, mais je comprends pas. J'ai pas eu mon rendez-vous. Oui, mais je comprends pas si. Oui, mais baba. » C'est-à-dire, le malade aujourd'hui, quand je dis le malade, nous aussi, on est des malades, hein, bon, est devenu extrêmement exigeant. La médecine a progressé, vous le savez, de façon absolument considérable. Et la médecine, c'est pour ça que je vous dis, il faut beaucoup travailler pour être médecin, parce que la somme de choses à apprendre, à connaître, etc., c'est absolument considérable. Et j'ai en particulier la plus grande estime pour ce qu'on appelle le médecin généraliste. Je me dis toujours, mais comment il fait ? Ou comment elle fait ? Moi, j'ai un tout petit domaine qui est le cœur mal formé des petits-enfants. Mais le médecin généraliste, on vient le voir parce qu'on a un problème d'oreille, un problème de pied, un problème d'estomac. C'est-à-dire, il doit tout savoir.
C'est ça qu'ils sont de plus en plus rares.
Donc, les médecins généralistes, qu'on appelle les internistes quand ils ont fait un certain nombre d'années d'études, c'est des gens que je trouve assez formidables. Maintenant, le médecin, c'est pas Dieu le Père. Il n'est pas parfait. Aucun homme n'est parfait. Un médecin peut se tromper. Un médecin peut avoir quelques faiblesses. On lui demande beaucoup aussi. On lui demande beaucoup. Et je trouve personnellement les malades très exigeants. En plus, les patients, maintenant, ils ont quelque chose, ils se précipitent. Me lancez pas sur le problème du vaccin, parce que là, on va y passer trois jours.
Je vous lance pas là-dessus, hein, je vous lance
c'est-à-dire
pas.
Les gens
ce que vous voulez dire, ils se mettent sur Internet
voilà,
et
voilà.
Il a des aujourd'hui, réponses sur tout.
Aujourd'hui, je sais tout, je vais sur Internet, je lis de travers, parce que, comme je dis souvent, je dis, attendez, moi j'ai mis 10 ans pour étudier cette chose-là, vous vous demandez à ce que je vous l'explique en 5 minutes, je vais essayer de vous l'expliquer. Mais si vous comprenez pas tout, c'est quand même normal, j'ai mis 10 ans à l'étudier.
Oui. Puis Francine, il y a quand même une donnée importante, moi que j'entends dans vos propos aussi, c'est que vous avez, pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, beaucoup voyagé. Et vous avez été dans des pays comme la Syrie, avant la guerre, le Yémen, le Liban, en Afrique. Vous avez vu aussi la médecine sur place.
Oui.
Et je pense que vous savez comment est pratiquée la médecine dans beaucoup de pays et comment elle est pratiquée en France. C'est pour ça que vous dites qu'on est quand même un peu trop exigeant et critique en
mais
France.
Je trouve qu'on est très gâté. On est en train en ce moment de véritablement conspuer la médecine. Alors, on va revenir sur, si on a le temps et si vous le souhaitez, sur le problème des hôpitaux. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne suis pas en train de dire on vit dans un nirvana, le monde est merveilleux. Il y a toujours à améliorer et il y a certainement des choses à améliorer dans les hôpitaux. On en est tous conscients.
Et notamment dans les hôpitaux publics. Où vous avez fait
absolument
toute votre carrière.
Absolument. Moi, je suis une fille des hôpitaux publics. Bon. Il y a à améliorer. On en reparlera si vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même en France la chance d'être dans l'ensemble, globalement, bien soigné et gratuitement. Attendez.
Et ça
il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous posez une question. Là, je vais poser une question à vos auditeurs. Combien ça coûte une intervention de chirurgie cardiaque? Vous le savez, vous?
Moi, je dirais à peu près 40 000 euros.
Oui, parce que vous avez
que
lu le bouquin.
Malhonnête. Mais je ne le savais pas.
Mais vous ne le saviez pas.
Je ne le savais pas. Bon. Mais non. Mais non.
Moi, je pense qu'il serait intéressant.
Entre 40 et 50 000 euros pour une opération.
Je pense quand même qu'il serait intéressant qu'on explique aux citoyens ce que ça coûte la médecine.
Mais en France, c'est gratuit.
Mais on ne sait pas. Les gens ne savent pas combien.
Les soins pour un cancer? Aucune idée.
Aucune idée.
Aucune idée. On va se faire soigner et c'est gratuit.
Non. Alors arrêtons de trop critiquer. Essayons de voir aussi parfois le bon côté des choses. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les médecins sont parfaits, mais allez, la grande majorité, c'est quand même des gens bien, globalement.
Visage, RCF.
Francine Leca, on ne va pas rester sur ces questions autour des hôpitaux, comment améliorer la médecine, on va parler de votre association. Parce que ça, c'est quand même important. Et c'est ce pourquoi vous vous
battez, c'est là pourquoi je suis là
vous
ici.
Engagez, pourquoi vous êtes là, je le sais bien. Et c'est ce qui anime toute votre vie hein, depuis un certain
depuis
temps.
Depuis 25 ans.
Depuis 25 ans. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque que vous avez fondée en 1996. Alors, on va prendre le début, cette première lettre que vous avez reçue. Parce que j'aime bien les genèses, moi j'aime bien savoir comment tout a démarré. Vous, vous êtes chirurgien cardiaque.
Moi je suis chef de service. Je sais plus si j'étais déjà chef de service à l'époque, oui je crois.
Si,
merci. Non, vous voyez quand je vous dis que je me rappelle plus
91.
Des dates. J'étais à l'hôpital La Hennec et puis... j'ai souvent raconté cette histoire de cette fameuse lettre, mais
venue
elle est vraie
d'Iran,
en plus.
Elle est belle
parce qu'elle est vraie. C'est un papa iranien, professeur de français, et la lettre était tellement bien écrite dans un français magnifique, disant, écoutez, j'ai un petit enfant qui peut pas être soigné, qui a une malformation grave de son cœur, etc. Et je me rappelle que j'avais été voir la directrice de mon hôpital pour voir comment on pourrait faire. Elle m'a dit, écoutez, comment on peut faire? On peut rien faire quand vous qu'on fasse. On peut pas opérer gracieusement le monde entier. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, l'argent ne peut pas et ne doit pas être un obstacle. Parce que j'avais créé quelques années auparavant, j'avais récolté de l'argent. Quand je suis devenue chef de service, j'avais récolté de l'argent parce que mon vieil hôpital La Hennec avait besoin d'un bon coup de peinture dans les chambres et dans les salles de bain. Et j'avais demandé autour de moi, j'avais récolté pas mal d'argent et j'avais fait des petits travaux pour la réfection d'une quinzaine de chambres. L'hôpital ne voulait pas s'en charger parce que La Hennec devait fermer, on devait partir dans un autre hôpital. Et à juste titre, la direction trouvait que faire des travaux à quelques années d'un départ, c'était pas indispensable.
Donc c'est vous qui avez cherché
j'ai dit, on
de
peut
l'argent,
pas mettre
trouver les... des mécènes.
Voilà. J'avais trouvé, sans trop de difficultés. Je me suis dit à ce moment-là, si j'ai trouvé de l'argent pour réparer des baignoires et donner un coup de peinture, je dois bien en trouver pour opérer des enfants quand même.
Oui, mais des enfants qui vivent loin, très loin.
Mais un enfant, c'est un enfant qui vit loin. L'enfant qui vit à côté, la sécurité sociale s'en occupe. Mmh. Celui qui vit au loin, il n'a pas de sécurité sociale, donc il meurt. Mmh. Voilà.
Alors, Francine Leca, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie en Iran pour l'opérer?
Mais
et pourquoi
pas,
vous avez décidé de le faire venir?
Mais
je vous pose des questions vous semblent incongrues.
Oh, attendez.
Mais pourquoi?
Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en Iran? D'abord, les chirurgiens iraniens, ils ne m'attendent pas. Mm-hmm. Hein. Deuxièmement, une opération de chirurgie cardiaque, il faut que vous compreniez. C'est de la grosse cavalerie. Il faut d'abord des diagnostics précis avant, que nous avons aujourd'hui grâce à d'excellents cardiopédiatres, grâce à l'échographie, vous avez entendu parler de cet examen magnifique qui permet de diagnostiquer exactement ce qui se passe à l'intérieur
mais
du cœur.
Mais qui n'existe pas dans la plupart des pays dans le monde.
Qui commence à exister, si bien sûr, aujourd'hui tout le monde évolue, heureusement. Mmh. Mais il faut des diagnostics précis, et ensuite, mais il faut une équipe. Le chirurgien n'est qu'un membre de cette équipe. Sans les autres, il ne peut rien faire. Il faut des anesthésistes parfaitement spécialisés et compétents pour endormir. Vous endormez un nourrisson de 3 kilos, vous ne faites pas ça comme ça.
Donc il faut un équipement et du personnel.
Il faut un personnel, il faut du matériel, il faut la fameuse circulation extracorporelle que nous avons évoquée. C'est une énorme machine cœur-poumon artificielle qui va remplacer le cœur, remplacer le cœur, pas lui permettre de s'arrêter. Ouais. Le remplacer pendant qu'on va l'arrêter, le cœur. Mm-hmm. Parce qu'il faut bien que la vie continue, qui va assurer la vie. Ensuite, les soins post-opératoires, c'est un temps essentiel. Mm-hmm. Quand le malade revient en réanimation, il faut le surveiller au quart de petit poil et il faut faire attention. Il baisse sa tension, il va trop vite, il a tension. Bon. Donc, c'est une énorme équipe, je vous dis, d'une dizaine de personnes, grosso modo.
Donc, l'idée était de faire venir
évidemment
cet enfant pour l'opérer ici.
Évidemment,
en
c'est même
mais
pas pensable.
Mais la question, c'était qui va payer? C'était ça la fameuse question.
Voilà.
Parce que
la question, c'était qui va payer, parce que
le gouvernement français, la sécurité sociale,
n'avait aucune raison de prendre. Donc, ça, j'ai fondé cette association privée, donc sans subside de l'État, en cherchant des mécènes. D'ailleurs, le mot de mécène, c'est pas un hasard.
Vous aimez bien ce mot de mécène. Hein,
mais je l'aime bien.
Mécénat chirurgie cardiaque.
Mécène, c'est un très joli mot. Mmh. Alors, dans l'esprit de chacun, le mécène, c'est celui qui défend une œuvre d'art. Mm-hmm. Bon, eh ben, j'ai toujours dit que le cœur d'enfant, c'était une œuvre d'art.
Et c'est voilà. Ce que vous défendez depuis 25 ans.
Depuis alors, 25 ans.
On va voir ensemble, Francine Lecat, comment elle fonctionne, votre association, hein, parce que vous avez opéré plus de combien d'enfants
je ne
maintenant
sais pas.
Vous savez pas, pareil, les chiffres,
Pour l'association, ah, si, ça, je crois que c'était moi.
Non, pour l'association.
Ben, on va friser les 4000.
Bientôt 4000 enfants oui. Que vous avez fait venir. Le plus souvent, c'est des pays vraiment pauvres. Hein. Vous privilégiez...
Ah ben, c'est pas le plus souvent, c'est toujours. On est là pour les pauvres, parce que les riches, ils payeront, et les Français... C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit.
Oui, quand je dis pas. Les pays pauvres, vous ne faites pas venir des pauvres des États-Unis. Vous faites venir des pauvres plutôt de Syrie, d'Afrique, ben du Vietnam, de pays.
Moi, je fais venir des enfants de là où on me demande, de là où on me sollicite, de là où on m'envoie des dossiers, des cas à traiter, que ce soit... C'est des enfants beaucoup d'Afrique, mais aussi, on a opéré beaucoup de Laotiens, puis maintenant le Laos commence doucement. Vous savez, au bout d'un moment, les pays commencent à évoluer aussi et commencent à opérer leurs enfants. Par exemple, j'ai opéré à une époque beaucoup d'enfants de Moldavie. Beaucoup. Et puis la Moldavie a évolué, progressé. Ils opèrent maintenant leurs malades, donc il n'y a plus d'enfants de Moldavie. On opère des enfants d'Haïti, on opère des enfants enfin, de partout où il y a besoin.
Alors comment vous sélectionnez ces enfants? Parce que j'imagine des demandes, vous devez en avoir. Parce que des malformations cardiaques, il y en a beaucoup malheureusement sur la Terre.
8 pour 1000, c'est-à-dire presque 1%. Presque 1% d'enfants qui va naître avec une malformation cardiaque. 8 pour 1000, c'est le chiffre global que tout le monde connaît, que tout le monde donne.
Donc ça fait beaucoup d'enfants qui ont un cœur mal formé, et ça fait beaucoup de demandes. Alors comment faites-vous pour sélectionner ces enfants?
Et c'est tout un travail, c'est le travail de l'association. On reçoit les dossiers, on étudie les dossiers.
Envoyés par des médecins du
pays. Alors, c'est très variable. Au début, c'était pas des médecins. Au début, c'était des gens qui commençaient à connaître l'association, des gens qui voyageaient dans le pays, des gens, quelques médecins. C'était extrêmement varié. Maintenant, la grande majorité sont des médecins. Parce que, en plus, on a créé depuis longtemps à Mécénat une formation médicale, justement, pour que les médecins de ces pays soient instruits à la cardiologie pédiatrique. C'est une spécialité dans la spécialité, vous voyez?
Mais alors, j'imagine, pour vous, ça doit être quand même très dur, non? Vous recevez toutes ces demandes.
Oui,
bah,
il faut
les... Vous pouvez pas dire oui à tout le monde.
Non, mais il faut d'abord étudier le cas. Ensuite, pas seulement un cas sur papier, c'est comme je dis toujours... le tout n'est pas de regarder la ratio, l'électro, l'écho, le cas, etc. C'est de voir le contexte. Le contexte, c'est quoi? Ben, c'est l'enfant. Comment va l'enfant? Comment ça se passe dans sa famille? Autrement dit, toujours mettre l'humain au centre de toute chose. Et ensuite, effectivement, ben, y a des décisions à prendre, bien sûr.
On le voit bien en lisant votre livre, « Ayez du cœur pour qu'ils en aient un ». Ça, c'est la grande phrase de l'association.
C'est pas mal, hein?
C'est pas mal comme titre. « Ayez du cœur pour qu'ils en aient un ». Dans ce livre, on voit bien que quand vous recevez les dossiers, vous analysez et vous voyez qu'il y a des cas... Pas la peine de les faire venir, quoi. C'est trop grave. Ça va demander parfois plusieurs opérations.
Alors vous savez qu'on a un staff médical à Mécénat dont je suis assez fière d'ailleurs, parce que c'est un vrai staff médical dans lequel on se réunit tous les mardis, on passe 3-4 heures sur les dossiers. Il y a 3 chirurgiens, 2 cardiopédiatres, c'est du solide. Mmh. Et les cas difficiles, on en discute. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est bien un staff, parce que chacun apporte sa compétence, sa sensibilité. Il y en a qui prendraient tout le monde, d'autres qui disent « non, attention, faut être raisonnable, ça c'est trop grave, ou ça au contraire, c'est pas trop grave ». Enfin, je veux dire, on discute les cas, et puis on prend des décisions. Et oui, mais il faut bien prendre des décisions à un moment. Hein.
Oui. La sélection, comme on dit, elle est indispensable de toute façon.
Comment voulez-vous faire autrement?
Parce qu'il y a quand même une question budgétaire, j'imagine. Donc vous m'avez posé la question combien coûte une opération cardiaque. Je vous ai dit à peu près 40 000. Hein. C'est entre 40 000 et 50 000. Vous avez essayé de tirer au maximum pour baisser les prix.
Ah, ça c'est un travail de 20, comme vous l'avez dit, de 25 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... payer plein pot les 40 000 euros On pourrait pas.
Pour un enfant.
On pourrait pas. Donc, il a fallu... au début, la façon de faire, c'était de les hospitaliser le moins longtemps possible, puisque c'était facturé à la journée, comme si vous allez à l'hôtel, hein, facturer la journée d'hospitalisation. Je me rappelle les familles d'accueil, parce qu'on parlera peut-être des familles d'accueil qui sont des gens tellement exceptionnels. Ils se levaient à 4h ou à 5h du matin pour amener l'enfant. Il avait eu son bilan en ambulatoire avant et il l'amenait à l'opération le matin même de l'opération. Parce que s'il l'amenait la veille, ça facturait une journée en plus. Ouais. Vous voyez, c'était à la journée. Et puis, heureusement, et ça, c'est une occasion pour moi de remercier tous les directeurs d'hôpitaux que j'ai rencontrés, qui ont été des gens... eux aussi, ils ont des difficultés pour leur budget et tout ça. Mais dans la majorité des cas, j'ai pu obtenir ce qu'on appelle des forfaits. Ça, heureusement. C'est-à-dire qu'une intervention s'étend. Donc déjà, on sait ce à quoi on s'attend, ce qui est extrêmement important. Parce qu'à la journée d'hospitalisation, si pour une raison ou une autre, un malade va moins bien et va rester plus longtemps à l'hôpital, boum, 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 c'est les journées, c'est 3000 euros par jour qui dégringolent. Donc avoir obtenu des forfaits, ça a été très important, ça a été un gros travail. Ça a été très, très important pour nous.
Francine Leca, avec votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque, vous faites venir ces enfants pour qu'ils soient opérés du cœur ici en France. Ils viennent seuls, ils viennent sans leurs parents.
Oui, sans leurs parents.
Alors ça, et ils sont accueillis dans des familles d'accueil, on va en parler.
Oui.
Mais d'abord, pourquoi ce choix de les faire venir seuls et pas avec leurs parents ?
Ben, je vous pose la question. Tiens, je vais venir Mohamed avec son père et sa mère. Vous logez le père et la mère ?
Plus difficile, hein.
Non, mais pas.
Et ça
vous
va coûter beaucoup plus cher. Ben, ouais.
Ben, alors, il y a deux raisons.
Je pense que ça sera plus difficile de trouver des familles d'accueil.
Il y a deux raisons. Je vais simplifier ma réponse. Il y a deux raisons. La première, c'est le réalisme. Vous imaginez le père, la mère. D'abord, le père et la mère, ils ont en général une
d'autres
moyenne
enfants,
de 5
là-bas.
Ou 6 ou 7 enfants. Donc, faut abandonner tout le monde pour accompagner le petit. Et ils arrivent. Papa, maman, qu'est-ce que j'en fais ?
Pendant plusieurs
semaines. Qu'est-ce que j'en fais ?
Oui, c'est clair. Donc, vous avez fait le choix dans
l'association. Ça, c'est la région budgétaire. Mais il y a aussi une autre raison, et elle est très importante, et les gens doivent la comprendre, parce que souvent, on me dit « Oh, mais c'est terrible, faire venir sans ses parents. » Un enfant est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sans ses parents. Alors, c'est vrai qu'il y a un âge, ça dépend aussi des âges. Parfois, le préadolescent, c'est un peu plus compliqué. Mais un petit enfant. La moyenne d'âge de nos enfants, c'est 6 ans. Quand je dis la moyenne, il y a des nourrissons de 6 mois et puis il y a des grands de 18 ans. La moyenne, c'est 6 ans. Un enfant de 6 ans, mais il s'adapte de façon incroyable. À partir du moment où il est accueilli dans une famille, vous verriez comment sont les familles d'accueil, mais c'est des gens exceptionnels. L'amour, il déborde d'amour, parce que accepter de prendre pendant 2 mois chez soi un petit enfant qui parfois ne parle pas la langue, qui est malade du cœur, qui peut ne... Bon, bref, vous imaginez ce que c'est, hein, vous qui êtes père ou grand-père maintenant, hein, vous voyez ce que c'est. Donc, c'est la générosité qui transpire de la part de ces personnes. Et cet enfant qui arrive chez eux, même s'il va passer, allez, au pire, un jour ou deux à pleurer, mais après, il va être comme un coq en pâte. Il a souvent pas beaucoup à manger chez lui. Il va dévorer, surtout quand il va être opéré, hein. Parce qu'après, il mange. Souvent, c'est des enfants très maigres avant l'opération, puis qui après sont en pleine forme et mangent, dévorent.
Ils viennent en général, quoi. Vous avez dit 2 mois, c'est à peu près ça, la moyenne.
Un mois et demi, gros. On va dire une moyenne de 1 mois et demi, quoi, grosso modo. Et donc, pour en revenir à votre question, quand les parents ne sont pas là, c'est à la fois très heureux et terrible à dire, mais au bout de 3 jours, les parents, ils ont oublié. Mais à l'inverse, quand ils vont rentrer chez eux, ils ont adoré leur famille d'accueil, ils pleurent en quittant la famille d'accueil, mais au bout de 3 jours, ils sont de nouveau contents de retrouver leurs parents. Le pouvoir d'adaptation d'un enfant est fantastique. Et que ses enfants ne croyaient pas qu'ils soient malheureux. Mmh. Ils sont chouchoutés, dorlotés, ils sont heureux. Et surtout, même un tout petit, il se rend compte qu'avant, ça allait pas bien. Qu'après, ça va
après
bien.
Après l'opération du cœur, ça va
le
bien.
Le petit gamin de 10 ans qui peut aller shooter dans son ballon de foot alors qu'avant, il avait du mal à marcher jusqu'à l'école. Même s'il le dit pas, mais ça lui transforme la vie.
Alors, justement, une question par rapport à ces enfants. On les sort de leur milieu familial, de la campagne où ils vivent, par exemple, au Sénégal ou au Mali. On les amène en France. Et là, c'est un choc pour eux. Ils découvrent la richesse de la consommation, la richesse de la France.
Bien sûr.
Et au bout de 2 mois, on leur dit, coucou, tu laisses tout ça, tu laisses la jolie chambre avec tous les jouets, et puis hop, tu retournes dans ta case.
Et ils s'adaptent.
Ah, oui.
C'est ce que je vous disais à l'instant, le pouvoir d'adaptation d'un enfant, c'est merveilleux un enfant, ça s'adapte.
Il y a eu des exceptions quand même, surtout avec les ados.
Il y a toujours
c'est plus dur. Il y en a qui veulent pas rentrer.
Mais il y en a toujours des exceptions à tout.
Oui.
Vous le savez bien. Bien sûr, si vous voulez qu'on fasse le scénario catastrophe, bien sûr, j'ai dû avoir 2 adolescents qui ont fugué. Bien sûr,
c'est 2 adolescents.
Oui, mais voilà, c'est exceptionnel.
Des milliers, quoi.
Mais bien sûr, et c'est un problème pour nous. Bien sûr qu'il y a parfois l'enfant qui s'adapte pas, qui a pleuré pendant tout le séjour. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Faut le dire, la majorité s'adapte.
La grande majorité s'adapte.
Alors, Francine Lecas, j'aimerais quand même qu'on donne un coup de chapeau, et vous le faites souvent aux familles d'accueil, parce qu'ils ont un rôle fondamental, et il y a des gens qui nous écoutent, peut-être, qui auront envie de devenir famille d'accueil.
Ah, mais écoutez, chers auditeurs, venez sur le site Mécénat, je fais ma publicité de 3 minutes, venez sur le site Mécénat, vous cliquez sur famille d'accueil.
On en parlera, je donnerai toutes les infos à la fin.
Et voilà, Mécénat, et on vous accueillera avec joie.
Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces familles d'accueil?
Tout.
C'est-à-dire
tout. C'est-à-dire, ils vont avoir pendant 1 mois et demi, on va prendre 1 mois et demi en moyenne. Pendant le Covid, il y a des familles qui les ont eu 6 mois. Hein.
Ouais, mais là, c'était encore une fois exceptionnel. On va dire en situation normale.
Un mois et demi, ils reçoivent un enfant. Alors, quand on les reçoit, bien sûr, on les prépare, on leur explique. Ensuite, moi, j'ai classé la gravité en 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs.
Et on leur explique
la gravité de la maladie. Mm-hmm. Il y en a qui disent, pour commencer, je veux un enfant qui n'est pas trop atteint. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres tout de suite qui plongent dans le grand bain en disant, allez, je prends 1 3 cœurs. C'est-à-dire, ils savent que c'est une pathologie grave, avec tous les risques que ça peut impliquer, etc. Donc, on les prépare, on les accompagne. Vous savez, à Mécénat, on répond au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Waouh, il y a une ligne.
Ah, ben, bien sûr. On a une garde à Mécénat.
Ouais.
Notre petite équipe médicale, il y a le téléphone d'urgence qui est toujours dans la poche. Et elle se le passe. C'est véritablement comme une garde dans les hôpitaux. Et si une famille, à 3 heures du matin, a une angoisse parce qu'il y a un enfant qui fait ci, qui fait ça, il y a quelqu'un au bout du fil. Donc on n'abandonne jamais les familles, ce qui est la moindre des choses. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'on demande aux familles? Et quand je vous ai répondu tout, mais ce sont des gens qui débordent d'amour, sont des gens qui aiment les enfants et qui prennent soin de l'enfant, qui vont le gâter, mais aussi pas trop le gâter, parce qu'ils sont conscients qu'ensuite l'enfant, comme vous le disiez tout à l'heure, va repartir chez lui dans une vie pas forcément facile. Les familles, c'est pas facile de pas entrer en relation avec les familles au pays, ça doit passer par nous.
Ah oui, ça vous demandez aux familles d'accueil de ne pas être en relation directement avec les parents.
Sinon, on s'en sort pas. Mm-hmm. Il faut un peu d'ordre dans tout ça. Ouais. Donc, c'est par nous que ça passe. Par contre, quand l'enfant repart, souvent, les familles entre en contact et il peut y avoir des aides, des gens qui voyagent. Enfin, il peut y avoir plein de choses. À la limite, c'est plus sous notre juridiction. Mais quand l'enfant est là, tout passe par Mécénat.
Alors, on a parlé des familles d'accueil. Il faut aussi saluer nos amis d'Aviation Sans Frontières.
Oh, ben voilà.
Je suis entouré de
gens formidables. Hein. Ouais. ASF, c'est du premier jour où on a créé Mécénat. J'ai rencontré une femme formidable, Gisèle Mage, qui n'est plus à ASF maintenant, mais il y en a d'autres qui lui ont succédé, qui sont formidables aussi. Et c'est des gens, vous dites, voilà, vous pouvez, dans 3 semaines, aller chercher le petit Intel à l'autre bout de la terre, pas de problème.
Oui. Souvent, ce sont des anciens d'Air France,
des anciens navigants, pilotes, voilà. Oui. Mais qui sont des gens formidables. C'est une très, très belle association. Sans elle et sans les familles d'accueil, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Et puis les chirurgiens, on oublie toujours aussi, on a quand même, je sais plus combien d'hôpitaux, pratiquement tous les hôpitaux des grandes villes à travers la France où existe un service de chirurgie cardiaque pédiatrique. Ce que je vous l'ai dit, c'est une spécialité dans la spécialité. On envoie des enfants se faire opérer, donc c'est Lyon, c'est Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Angers, Tours, etc., etc.
Alors, un petit détail, mais qui est quand même important, Francine Lecas, c'est que vous, quand vous travailliez aux hôpitaux de l'ANEC ou Necker, vous occupiez pas d'argent. Vous étiez là, concentré dans votre travail de chirurgienne.
Oui.
Et là, maintenant, vous êtes devenue un peu une financière pour l'association, à trouver des mécènes, à trouver des donateurs, des stars pour vous parrainer.
Je me suis quand même, au tout début...
Ça a dû vous faire bizarre.
Partie financière, j'ai toujours eu la chance de travailler d'abord... Au début de mécénat, c'était avec mon filleul Patrice Roinette. C'est avec lui d'ailleurs, avec Patrice, qu'on a fondé ensemble cette association.
Lui, il était dans la communication.
Et puis c'est lui qui faisait rentrer les sous, etc. Et puis maintenant, je vous disais tout à l'heure, c'est une affaire de famille. Maintenant, c'est mon fils Orso Chetoshin qui depuis quelques années maintenant, le temps passe, est le directeur de mécénat. Et il est assez formidable, il fait rentrer les sous.
Et ça, c'est important, faire tourner une association comme la vôtre.
Il y en a un qui fait rentrer les sous et l'autre qui les dépense. Moi, je dépense.
Vous voulez dépenser. En gros, vous avez besoin de combien par an pour faire venir des enfants?
Je vais vous dire, un enfant, je vais répondre très précisément à votre question. Les frais médicaux pour un enfant, c'est une moyenne de 12 000 euros, auxquels il faut ajouter ce qu'on appelle les frais de fonctionnement d'une association. Il y a du monde dans une association, il faut la faire tourner. Il nous faut entre 18 et 20 000 euros pour opérer un enfant. Voilà.
Pour opérer un enfant du cœur.
Voilà. On va faire un chiffron. J'aime bien les chiffrons.
Oui. 20 000 euros.
Allez, 20 000 euros pour opérer un enfant. Alors, c'est une grosse somme. J'en suis très consciente. C'est une grosse somme. Mais la chirurgie cardiaque, c'est lourd. C'est vrai qu'on s'est attaqué, à quelque chose de lourd, mais c'est ma spécialité. Donc moi, j'ai fait dans ce que je savais faire.
Alors Francine Lecas, on arrive bientôt à l'issue de cet entretien. On a commencé un peu par votre histoire personnelle. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Allez, je sais que c'est pas galant, on parle pas d'âge, mais je vais quand même le dire parce que moi, je suis assez admiratif. Attendez, vous avez 84 ans, mais oui, vous vous tournez.
Je suis en 38, ça fait pas encore. Ah oui, au mois de mai. Oui. Ah oui, je les ai pas encore.
Non, vous avez que 83 ans et demi alors. Qu'est-ce qui vous fait vous engager comme ça avec autant d'énergie? Parce que vous arrêtez pas, quoi.
Écoutez, d'abord, j'ai la chance d'avoir une santé qui me le permet. Il y a des gens qui, à mon âge, sont plus très vaillants, les pauvres. Donc, j'ai premièrement cette chance. Deuxièmement, c'est quand même fantastique.
Attendez, mais je sais que vous aimez la pêche à la mouche.
Oui, mais j'aime plein de choses.
Vous pourriez aller pêcher en Écosse.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux aller pêcher, mais il y a de moins en moins de poissons en France. Alors bon, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas de vivre et d'aimer énormément de choses dans la vie. Mais reconnaissez quand même que c'est assez passionnant de sauver des enfants.
Même si vous ne pouvez plus opérer, parce que je me suis dit quand même, ça doit être dur, ça, non? La femme que vous étiez, qui a opéré tellement de fois.
Ça s'est passé comme une lettre à la poste.
C'est
vrai? Je me disais, moi je suis admiratif de ça. Je me disais, mais le jour où je vais plus opérer, parce que j'adorais ça. Ben non. Vous savez, c'est ça la vie. C'est ça la vie. J'adorais le ski. Puis un jour, je me suis trouvé en haut d'une montagne et j'ai eu une espèce de panique, de vertige. Alors qu'avant, je me disais, le jour où je ne skierai plus. Ben un jour, j'ai plus skié, mais j'ai fait autre chose. La vie, c'est merveilleux. Ça foisonne de possibilités. Et quand vous ne faites... Vous savez, ça me fait rire parce que... Vous savez, quand je voyais les parents, mes petits-enfants, parce que j'ai quand même, avant d'opérer les enfants de mécénat, j'ai opéré les petits Français, les parents me disaient, mais docteur, est-ce qu'il pourra faire du sport après? Je disais, écoutez, un petit peu, mais pas trop. Et il aura la chance, justement, de pas faire trop de sport, ce qui va lui permettre, lui donner du temps pour faire beaucoup d'autres choses. Alors, c'était une espèce de façon de dire, mais ne soyons pas obsédés par une chose. Il y a tellement de choses merveilleuses à faire que si, pour une raison d'âge, de quelle que soit la raison, on ne fait plus, faut pas être nostalgique. On dit, mais j'ai du temps pour faire autre chose.
Et vous,
qu'est-ce qui manque ? C'est le temps. C'est uniquement ça.
Et donc, vous l'avez et vous le donnez complètement à l'association. Une dernière question. Je ne savais pas où votre petite fille serait avec nous là, pour l'enregistrement de cette émission. Elle est là, juste à côté de nous. Et j'avais prévu de vous demander, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre d'essentiel à vos petits-enfants et à travers eux aux jeunes ? Qu'est-ce que vous avez
envie
de leur dire ?
Je leur transmettrais. Moi, je n'ai pas de prétention. J'aurais aimé avoir un petit-fils ou une petite fille, j'en ai 6. Médecin, ça m'aurait plu, mais j'en ai pas. Bon, tant pis.
Non, mais sur ce qui a été un peu moteur dans votre vie, ce qui a donné du sens à votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de partir ?
Je sais pas si je leur dirais quelque chose. Ils sont grands maintenant. La dernière vient d'avoir 18 ans, avant-hier, hein, Colomba ? 18 ans avant-hier, Roxane. Je sais pas ce qu'ils pensent de moi. Vous savez, on n'est pas très bavard dans la famille. C'est curieux parce que là, je suis bavarde comme une pie, mais bon. On ne se répand pas beaucoup. On vit assez proche. Vous voyez, par exemple, une grande joie pour moi, c'est de me dire que j'ai mon fils qui dirige mes sénats. Et aujourd'hui, ma petite fille, qui est un des éléments très costaud et de grande qualité à mécénat. Alors on dit, oh, mais les affaires de famille, ben je dis oui, mais c'est très très bien les affaires de famille, pourquoi pas ? Pourquoi ?
Mais il n'y a pas un message que vous avez envie de leur transmettre ?
Oh ben si, le message de tous les parents aux enfants, essayer d'être... C'est pas essayer d'ailleurs, c'est des gens bien, être quelqu'un de bien, c'est quoi être quelqu'un de bien ? Mais là, on va se lancer dans la grande philosophie. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit à Colomba, j'ai attendu 10 minutes sur le trottoir, j'ai dit un rendez-vous, débrouille-toi, s'il y a des embarras de Paris, tu pars une demi-heure avant, même si c'est à 10 minutes, et c'est toi qui m'attends, c'est pas moi qui t'attends. C'est des espèces de règles de vie, de respect de l'autre, d'essayer de se conduire correctement, de savoir aussi qu'on vit en société. Ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils vivent pour eux, mais aussi nous sommes en société, nous vivons avec les autres. Donc nous nous imposons par la force des choses des contraintes qui ne nous plaisent pas forcément, mais qui sont le respect de la liberté. Vous connaissez la phrase célèbre, liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, respectons les autres, respectons leur liberté, essayons nous-mêmes de nous sentir libres et heureux. Hein ? C'est pas incompatible. Le respect, l'amour, ce que tout parent veut laisser à ses enfants.
Bien, merci beaucoup, Francine Lecage. J'étais ravi de vous rencontrer, de mieux connaître votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque à travers cet échange.
Mais je vous remercie.
Je renvoie donc tous les auditeurs au site, sur Internet, bien sûr, ils trouveront énormément d'informations. Sinon, s'ils veulent vous aider, ils peuvent vous écrire également. Vous êtes au 33 rue Saint-Augustin, 7502 Paris. Et puis, je renvoie à votre livre écrit avec Brigitte Petitgand.
Ah oui, c'est Brigitte qui l'a écrit.
Attention. Attention.
Attention.
Ayez du cœur pour qu'ils en aient un aux éditions Kéro. C'est peut-être un message pour chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Hein, ayez du cœur pour qu'ils en aient un.
Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler à tous nos auditeurs de cette association que j'aime tant.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.